11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Toute l'info, bonjour Olivier Charman.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, les détails du nouveau plan de cessez-le-feu proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre à Gaza. Israël l'accepterait, le Hamas réfléchit encore. Bientôt du courant électrique en Syrie et d'une façon durable pour mettre fin aux coupures d'électricité quotidiennes après 14 ans de guerre civile. Un accord vient d'être conclu entre le gouvernement et plusieurs groupes internationaux pour doubler la capacité de production électrique du pays. À Madagascar, l'hiver austral est arrivé, des températures fraîches qu'affrontent les nombreux sans-abri de la capitale. Ils s'organisent comme ils peuvent, reportage à suivre dans les rues d'Antananarivo. Un juge français à la tête de la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui, avec de lourds dossiers à gérer et des nombreuses critiques de certains de ses États membres, notamment sur les affaires liées à l'immigration. Et puis, clap de fin pour le français Richard Gasquet, éliminé au deuxième tour de Roland-Garros. Il met un terme à sa carrière à 39 ans et ne foulera plus les cours de tennis. Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, Israël affirme accepter le nouveau plan de cessez-le-feu proposé par les États-Unis. De son côté, le Hamas continue officiellement à étudier ce nouveau projet, mais estime qu'il est trop en faveur du côté israélien. Alors, que sait-on de ce nouveau plan ? On retrouve Michel Paul à Jérusalem.
Eh bien, ce nouveau plan prévoit une trêve de 60 jours, selon des sources israéliennes qui sont citées par les médias ici, avec la libération immédiate de la moitié des otages présumés être toujours vivants. Ils sont au nombre de 10. Alors, la partie la plus sensible porte sur la fin de l'état de belligérance. Une formule a été mise au point par l'émissaire américain Steve Witkoff. Israël s'engagerait à respecter un cessez-le-feu à longue échéance, tout en négociant une nouvelle phase de l'accord qui pourrait aboutir sur la fin des combats. Et c'est sur ce point précis qu'une fois encore, la négociation semble achoppée. L'élément nouveau, en tout cas cette fois-ci, c'est que le Hamas demande pour sa part des garanties, notamment directement de la part du président américain Donald Trump. C'est lui qui devrait personnellement annoncer un cessez-le-feu.
Le courant pourrait enfin revenir durablement en Syrie, alors que les coupures d'électricité rythment toujours le quotidien de millions de Syriens. Un vaste plan de reconstruction du réseau énergétique vient d'être lancé ce matin à Damas. Le gouvernement a signé un accord avec plusieurs groupes internationaux pour doubler la capacité de production du pays. Explication de notre correspondant Mohamed Erami.
C'est un projet inédit depuis le début de la guerre civile. La Syrie va doubler sa capacité électrique, aujourd'hui estimée à environ 5000 MW. Jeudi 29 mai, au palais présidentiel de Damas, un accord a été signé entre le ministère syrien de l'énergie et quatre grandes entreprises étrangères, dont la Qatari UCC Holding, la turque Cengiz Energy et Power International USA. Un signal fort dans un pays où l'électricité publique n'est disponible que 2 à 3 heures par jour dans la plupart des régions. Le projet, baptisé Syria Power Revival Initiative, prévoit le déploiement de centrales à gaz et solaires. Il s'inscrit dans le processus de reconstruction après 14 années de conflits qui ont ravagé les infrastructures. Les anciens approvisionnements en pétrole iranien sont désormais à l'arrêt et depuis mars, c'est le Qatar qui fournit provisoirement du gaz à la centrale principale de Damas. Dans la rue, les habitants aussi entre espoir et scepticisme. On veut y croire, mais il faudra voir si ça change vraiment quelque chose, nous dit Maïsoun, une habitante de la capitale qui vit avec moins de 3 heures d'électricité par jour. Côté gouvernement, le président Ahmed El-Sharaa s'est engagé à rétablir un service continu d'ici 2 ans. Un chantier colossal et une promesse très attendue. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Sur les hauts plateaux malgaches, cette fois, l'hiver austral est arrivé. Les températures fraîches que redoutent tant les sans-abri ont fait leur apparition sans réelle transition avec l'été. Dans les rues et sur les trottoirs de la capitale qui n'ont jamais autant été pris d'assaut par une population en manque de tout, on s'organise comme on peut pour se protéger du froid mordant. Reportage de Sarah Teto.
Il est 18h, la nuit est tombée sur la capitale et avec elle le froid et le vent sont arrivés. La température a chuté de 21 à 10 degrés en quelques heures.
Rive, tu peux demander aux enfants d'aller à la benne trouver du charbon ?
Ok, j'y vais.
C'est là et son mari sont ce qu'on appelle les propriétaires d'une benne à ordures. En clair, ils travaillent dans la benne à la recherche de déchets revendables et de nourriture encore bonne à consommer. Ils se sont construits leur abri de fortune à 5 mètres du bac qui leur assure leur survie.
Il fait froid cet hiver. La nuit, on est obligé de se mettre dans des sacs poubelles et de mettre le drap par-dessus pour se protéger du froid. « Maman, j'ai encore froid », se plaignent les enfants. « Mais toi, tu ne peux rien faire que les écouter parce que tu n'as rien d'autre à leur proposer. »
Son rire, c'est pour mieux retenir les larmes qui embuent ses yeux. Son corps et celui de son mari portent les stigmates d'une vie de débrouille et de résistance passée dans la rue. Pourtant, confié le couple, ils ne regrettent en rien leur vie d'avant lorsqu'ils vivaient dans l'un des deux tunnels de la ville.
On peut dire qu'on vit mieux ici que dans le tunnel d'Obanidia, parce que là-bas, on n'avait que le ciel comme couverture et même pas de sac pour nous recouvrir. Désormais, même si on dort sous un toit en plastique, on a un peu plus d'intimité et on n'a plus à subir le regard des passants.
La capitale ne compte plus que deux centres d'hébergement d'urgence pour les familles. Mais l'insalubrité et l'insécurité qui y règnent ôtent souvent toute envie de venir s'y réfugier. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
L'Ukraine est prête à participer au nouveau pourparlers proposé par la Russie à Istanbul lundi prochain, mais demande à Moscou de lui transmettre un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Les positions officielles des deux belligérants semblent difficilement conciliables. La Russie exige notamment que l'Ukraine renonce à jamais à rejoindre l'OTAN et lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion. Sur ce dossier, Emmanuel Macron, actuellement à Singapour, affirme que la décision ou non de sanctionner la Russie si elle refuse un cessez-le-feu en Ukraine était un test de crédibilité pour les États-Unis de Donald Trump. Si la Russie confirme, dit le président français, qu'elle n'est pas prête à faire la paix, Washington doit confirmer son engagement à sanctionner Moscou. Et sur le terrain, les attaques nocturnes entre les deux camps se poursuivent. Ce matin, les services d'urgence ukrainiens ont fait état de 11 blessés dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, après des attaques de drones russes. Un juge français, Mathias Guillaumard, prend ce vendredi la présidence de la Cour européenne des droits de l'homme, un mandat de 3 ans, durant lequel il aura fort à faire. La Cour, qui doit statuer sur des dizaines de milliers de requêtes, est souvent critiquée par les États. Muriel Paradon.
Rien n'est jamais acquis. Lors de sa nomination le mois dernier, Mathias Guillaumard rappelait la nécessité de poursuivre le travail mené par la Cour européenne des droits de l'homme depuis sa création en 1959. Âgé de 56 ans, cet énarque qui a fait toute sa carrière au Conseil d'État en France avant de rejoindre récemment la CEDH aura de nombreux défis à relever. La Cour censée veiller à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme dans les 46 États membres qui l'ont ratifiée. La Cour est de plus en plus critiquée. La semaine dernière, par exemple, 9 pays européens, emmenés par l'Italie de Giorgia Meloni, ont publié une lettre ouverte remettant en cause les décisions de la CEDH sur le dossier de l'immigration notamment. Saisie par des États ou des particuliers, la Cour doit statuer sur des dizaines de milliers de requêtes. Ces arrêts s'imposent aux pays concernés qui doivent modifier leur législation ou leurs pratiques. Dans un contexte de guerre où les attaques contre l'État de droit se multiplient, nous devons être conscients, assure Mathias Guillaumard, de nos responsabilités et jouer pleinement notre rôle.
Enfin, Richard Gasquet n'est plus joueur de tennis professionnel. Le Biterrois de 39 ans a dit adieu au tennis hier après-midi à Roland-Garros à l'issue de sa défaite au deuxième tour face au numéro 1 mondial. Une cérémonie en son honneur a eu lieu. Dans la foulée sur le court central, Philippe Châtrier, Eric Mamot qui était présent.
C'est fini. Le petit Mozart du tennis a joué sa dernière partition face au maestro italien Yannick Sinner et sur sa scène préférée du court central de Roland-Garros. Le tout sous les chaleureux applaudissements des supporters français. Bref, une conclusion sans fausse note. Richard Gasquet.
Je peux pas rêver mieux pour moi de m'arrêter sur ce court incroyable, le plus beau court du monde. Vous m'avez fait vivre des émotions qui sont extraordinaires. Forcément, maintenant, le tennis professionnel est fini avec moi, mais voilà, c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Je viendrai avec vous dans les tribunes. La passion du tennis, quoi qu'il arrive, elle restera, que ce soit sur le court ou en dehors, elle sera toujours là jusqu'à la fin de ma vie. Vive le tennis, vive la France, et à très très vite. Merci.
Entamée en 2002, la symphonie de Richard Gasquet s'achève avec 16 titres décrochés, 3 demi-finales de Grand Chelem et une Coupe Davis. Le Biterrois qui a également gagné le cœur du public.
Toute mon enfance, je l'ai suivi, il m'a beaucoup inspiré, c'est vraiment un modèle. C'est quelqu'un de vraiment touchant et d'émouvant et il a fait une grande carrière.
Ce joueur-là, il a envie du tennis, il donne envie au tennis. Il joue avec les tripes et c'est extraordinaire.
J'avoue que je me suis un peu inspiré de son revers à une main. C'est un très beau geste, je le trouve élégant et c'est pour ça que j'ai essayé de le reproduire, mais malheureusement j'en suis très très loin.
C'était sa dernière séance. Un revers de magicien qui va sacrément manquer au tennis. L'écran est tombé, et
Voilà, c'était sur un son d'Eddie Mitchell, la dernière séance. On retrouvera Eric Mamrud, bien sûr, tout au long de ce Roland-Garros. Mais tout de suite, question de femme, priorité santé, avec Caroline Paré.